Les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le nouveau monde, pour pasticher l'expression d'Emmanuel Macron, des membres de l'opposition et des marcheurs, mais aussi des acteurs économiques, font entendre leur voix ce matin et détaillent leurs propositions pour une économie plus durable et plus solidaire. Arrière-pensée politique, dénonce le chef de file LREM à l'Assemblée nationale.
Tandis que certains réfléchissent à un monde d'après plus respectueux de l'environnement, les banques françaises continuent d'investir dans les secteurs les plus polluants, comme le pétrole, le gaz de schiste. C'est le résultat d'un rapport d'ONG publié aujourd'hui. Précision dans ce journal.
À suivre également les différentes mesures prises par le ministre de la Culture, Franck Riester, en faveur des artistes et des entreprises pénalisées par la crise du coronavirus. Et puis, nous irons au Liban qui s'apprête à se reconfiner après une reprise inquiétante des contaminations.
Et puis, la question du jour dans une dizaine de minutes, Catherine, comment la crise du coronavirus pourrait conduire à la famine certaines régions du globe? On posera la question à Thierry Pouch, il est économiste et chef du service études et prospectives de la PCA, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Alors que l'État a prévu d'aider les entreprises à hauteur de 20 milliards d'euros, le collectif Nous sommes demain, qui réunit 400 000 patrons et emploie 3 millions de salariés, appelle le gouvernement à soutenir une économie plus solidaire, durable et inclusive. Pour être entendu, il lance à la fin du mois un mouvement très clairement assumé contre MEDEF. Les précisions d'Eva Sadoun, coprésidente de l'ITA.co, une plateforme européenne de conseil en finance verte. Elle sera l'une des porte-parole de ce mouvement.
On existe et on voit que le mouvement Nous sommes demain, qui est le mouvement qui représente l'ensemble des corps intermédiaires, de l'économie sociale à l'entreprise à mission, à l'entrepreneuriat à impact, ça représente limite 15% de l'économie. C'est 400 000 entreprises, 3 millions d'emplois et ça a vraiment un poids au niveau économique. Et en fait, on ne comprend pas l'inertie aujourd'hui et pourquoi on n'est pas écouté alors qu'on a des modèles qui fonctionnent et qui répondent à l'intérêt général, ce qui devrait être l'objectif d'une nation. On va créer en parallèle un contre-MEDEF pour vraiment représenter les entreprises qui ne se sentent plus représentées par l'économie dominante et qui ont envie d'inscrire leur futur dans une transition écologique et sociale. Notre objectif aussi, c'est d'être écouté. Donc aujourd'hui, on a structuré un plan de 1 milliard de relance pour que cette relance soit la relance de l'impact, qu'elle permette la réindustrialisation verte de l'économie, qu'elle permette la transformation de l'économie numérique, qu'elle nous permette de regagner en souveraineté numérique également, qu'elle permette à des entreprises inclusives de se développer et qu'elle permette également la transition énergétique de l'économie pour une économie qui répond plus à nos valeurs.
Eva Sadoun, l'une des porte-parole du collectif Nous sommes demain, elle répondait à Annabelle Grelier. Quand les entreprises à impact social et environnemental montent au front, c'est un article à retrouver sur franceculture.fr. Eux aussi dévoilent ce matin leurs 30 propositions pour le jour d'après la crise sanitaire du coronavirus. Santé, sobriété, solidarité et souveraineté, c'est le mot d'ordre d'une soixantaine de parlementaires à la fibre écologique et sociale, dont certains membres de la majorité. Ils sont emmenés par le marcheur de l'aile gauche Aurélien Taché et les députés ex-LREM Paola Fortezza et Mathieu Orphelin, proches de Nicolas Hulot. Ces parlementaires disent avoir reçu 8700 contributions sur leur plateforme en ligne baptisée Le Jour d'après, lancée début avril. Ces parlementaires proposent notamment de revaloriser les rémunérations des soignants de 200 euros par mois, de créer 200 000 postes en 3 ans dans les EHPAD et les services d'aide à domicile. Ils réclament encore un grand plan de rénovation énergétique des logements, un revenu universel en commençant par élargir le RSA aux 18-25 ans et puis un soutien massif à une agriculture locale de qualité et en circuit court. Une démarche qui est portée par des arrière-pensées politiques, estime Gilles Legendre, le chef de file des marcheurs à l'Assemblée, alors que des députés LREM s'apprêtent à faire scission en créant un 9e groupe parlementaire au Palais Bourbon. On y revient à 8h16 dans le billet politique de Frédéric Seyss. Alors que certains réfléchissent à un monde d'après plus respectueux de l'environnement, les banques françaises, elles, continuent d'investir dans les secteurs les plus polluants comme le pétrole ou le gaz de schiste. C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport d'ONG intitulé « La place financière de Paris est au fond du puits ». Un rapport opportunément publié alors que démarrent en ce moment les assemblées générales des grandes banques françaises comme celle du Crédit Agricole aujourd'hui. Les précisions de Célia Kiré.
D'après ce rapport, les grandes banques françaises ont investi 24 milliards de dollars depuis 2016 dans le secteur du pétrole et du gaz de schiste, dont 11 milliards à l'initiative de la Société Générale. Lucie Pinson de l'ONG Reclaim dénonce une certaine hypocrisie française, car si l'exploitation de gaz de schiste est interdite en France, le financement de cette énergie fossile ne l'est pas.
Les investissements et les financements français vont servir concrètement à augmenter la production de gaz et de pétrole de schiste aux États-Unis. Son transport et également son exportation, y compris vers l'Europe, puisque l'Europe aujourd'hui importe du gaz de schiste liquéfié des États-Unis.
Et comme ces financements sont incompatibles avec l'accord de Paris sur le climat, selon ces ONG, Laurette Philippot des Amis de la Terre compte bien interpeller les actionnaires des grandes banques lors de leurs assemblées générales. L'ONG possède en effet une action dans le capital de chaque banque.
Justement, ce qu'on demande aux investisseurs et aux banques à leur assemblée générale, c'est de se désengager de ces secteurs-là pour des considérations climatiques et également parce qu'ils sont extrêmement risqués pour la santé. On les interroge, est-ce qu'elles sont prêtes à sortir du secteur et à reconnaître ces risques-là?
Et une nouvelle fois, ces ONG demandent au gouvernement des mesures contraignantes pour empêcher les banques d'investir dans ces énergies fossiles.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Emmanuel Macron préside aujourd'hui le premier conseil des ministres depuis le déconfinement.
Exercice délicat pour dans lequel l'exécutif joue gros face aux craintes de nouvelles vagues d'épidémie de coronavirus. Le troisième jour de la lente remise en route du pays a été lesté hier par un bilan à nouveau en hausse. 348 décès enregistrés en 24 heures, portant à au moins 26 991 le nombre de morts recensés depuis le 1er mars. Le Conseil des ministres d'aujourd'hui sera entièrement consacré à l'épidémie de Covid-19 avec une longue série de projets de loi habilitant les dizaines d'ordonnances prises dans l'urgence pour relancer l'économie notamment. Arrêtons-nous justement sur les aides promises au secteur culturel. Le ministre Franck Riester était l'invité du temps du débat hier soir sur France Culture. L'occasion pour lui de chiffrer l'aide de l'État en faveur des artistes pénalisés par la crise du coronavirus. Un soutien financier qui s'élève à plusieurs centaines de millions d'euros.
Sur les prêts garantis par l'État pour les entreprises du secteur de la culture, c'est 300 millions d'euros de crédits qui ont été mobilisés. Pour le fonds de solidarité pour les TPE et les indépendants, c'est 52 millions d'euros qui ont été déjà activés à fin avril. Le report des charges sociales pour celles et ceux qui en avaient besoin dans le secteur de la culture, c'est 42 millions d'euros. Donc vous voyez que concrètement déjà, on voit à quel point la mobilisation financière de l'État a été très importante, sans compter tout le chiffrage sur le chômage partiel, que je n'ai pas à cette heure, mais qui évidemment va représenter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. En ce qui concerne les annonces du président de la République, d'abord l'annonce phare concernant les intermittents, c'est artistes et techniciens du secteur du cinéma, du spectacle vivant et de l'audiovisuel, c'est vraisemblablement plusieurs centaines de millions d'euros qui vont être mobilisés, puisque l'idée c'est de prolonger les droits jusqu'à fin août 2021 avec une prorogation aussi des dates anniversaires de ce fait.
Le ministre Franck Riester, dans le temps du débat hier soir sur France Culture, il répondait à Emmanuel Laurentin et Chloé Cambrelin. Le ministre de la Culture a également précisé le montant du fonds d'indemnisation pour les tournages interrompus. L'État va l'abonder de 50 millions d'euros. Enfin, Franck Riester a annoncé une enveloppe de 105 millions d'euros pour l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles. Le 28 mai, au plus tard, 30 000 communes auront des conseils municipaux installés et des maires élus. C'est ce qu'a annoncé hier le Premier ministre à l'Assemblée nationale à la suite d'un avis rendu par le Conseil scientifique. Édouard Philippe, applaudi hier par les députés, salué également dans de nombreuses communes qui attendaient depuis le premier tour le 15 mars dernier de pouvoir installer leurs conseils municipaux pour pouvoir prendre des décisions et lancer des investissements vitaux localement pour les entreprises. Quant aux 5000 communes environ où il faut encore organiser un second tour, dans quelles conditions cela pourra-t-il se faire? Le Conseil scientifique doit rendre un nouvel avis le 23 mai prochain. On y revient dans le journal de 7h30. Direction le Liban à présent, où après une bonne gestion de la première vague de Covid-19 et un déconfinement progressif lancé début avril, le pays va de nouveau s'arrêter. 4 jours de reconfinement à partir de ce soir et jusqu'à lundi matin. A priori, c'est ce qui a été décidé hier après une reprise inquiétante des contaminations. Les précisions à Beyrouth d'Aurélien Colli.
Retour du confinement sans grande surprise pour le docteur Abou Sharaf, président de l'Ordre des médecins du Liban, qui ne pouvait que constater le relâchement de ses compatriotes.
Si on continue comme on a vu ces derniers jours, on est vraiment en face d'un danger sérieux. Il faut respecter la distanciation, l'utilisation des masques. On n'a pas les moyens au Liban d'avoir des cas énormes en un temps court.
4 jours de reconfinement donc, comme un électrochoc pour changer les comportements, espère ce médecin. Pour figer le pays aussi, explique Firas Abiad, directeur de l'hôpital Hariri, qui centralise la lutte contre le virus. Le temps d'identifier les clusters, de tester, d'isoler et de revoir aussi le suivi des Libanais rapatriés. Plus d'une soixantaine de cas positifs sur des vols arrivés la semaine dernière. En enquêtant sur ces nouveaux cas, on a réalisé que les passagers n'avaient pas respecté les consignes. Ils se sont éparpillés dans le pays. Certains ont même fait des fêtes, déplore le docteur Firas Abiad, qui réclame des contrôles beaucoup plus stricts sur ces rapatriés. 12 000 doivent encore arriver d'ici la fin mai.
Aurélien Colli à Beyrouth pour France Culture. Retour en France avec cette question. Quel impact le confinement a-t-il eu sur la consommation d'alcool et de tabac chez les Français ? Santé publique France publie aujourd'hui les résultats d'une étude lancée au début du confinement. Résultat, un peu plus de la moitié des fumeurs déclarent ne pas avoir modifié leur consommation, mais un quart d'entre eux l'a augmenté en moyenne de plus de 5 cigarettes par jour. 10% des consommateurs d'alcool déclarent avoir augmenté leur consommation. Analyse détaillée avec Viet Nguyen Tan, responsable de l'unité addiction à Santé publique France.
Cette évolution des consommations de tabac et d'alcool pendant le confinement le reflète probablement aussi la diversité des situations. Parmi les Français, tous n'ont pas été impactés de la même manière et tous n'ont pas modifié leurs habitudes de consommation de tabac ou d'alcool de la même manière. Si on prend par exemple les fumeurs, finalement, ceux qui déclarent avoir augmenté leur consommation, ce sont davantage les jeunes fumeurs, notamment les 25-34 ans. Ce sont davantage aussi les actifs en télétravail. Et puis, on note aussi un lien, et ça c'est vrai aussi avec l'alcool, on note un lien avec le niveau d'anxiété et de dépression. Plus on est anxieux, plus on a tendance à augmenter ses consommations. Si on prend les consommations d'alcool, ceux qui déclarent avoir augmenté leur consommation, donc ces fameux 10% qui déclarent avoir consommé plus d'alcool que d'habitude, les plus concernés sont plutôt les plus jeunes, les moins de 50 ans, ceux qui habitent dans des grandes villes, notamment les grandes villes de plus de 100 000 habitants, et puis effectivement les parents d'enfants de moins de 16 ans qui se déclarent plus impactés. Il faut aussi noter qu'un certain nombre, que ce soit sur le tabac ou l'alcool, déclarent avoir moins consommé. D'ailleurs, ce sont aussi des motifs qui ont été cités par certains, parce que finalement, le confinement, c'était une opportunité, une envie d'arrêter de fumer qu'on avait, qui nous trottait derrière la tête depuis un moment. Et donc là, ça a été l'opportunité. Et pourquoi pas, du coup, renforcer ces comportements, disons, vertueux pour la santé, pour arrêter ou diminuer ces consommations.
Viet Nguyen Tan, responsable de l'unité Addiction à Santé publique France, elle répondait à Florence Turm. Du sport, en revanche, ça c'est bon pour la santé. Dans le cadre du déconfinement progressif, des plages vont rouvrir dans le nord du Finistère notamment et en Loire-Atlantique, à La Baule ou à Pornichet par exemple. Et puis les guides de montagne se réjouissent de pouvoir reprendre partiellement leur activité dès aujourd'hui. Le temps de ce mercredi 13 mai, dominé par la fraîcheur, les températures sont comprises ce matin entre 2 et 6 degrés avec quelques gelées dans la moitié nord du pays.